enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Bonjour et bienvenue dans notre série « Poser les fondations ». Nous abordons aujourd'hui le sujet du baptême dans le Saint-Esprit, à travers ce message intitulé « L'immersion dans le Saint-Esprit ». Ce thème est souvent un sujet de controverse dans les différentes dénominations chrétiennes. Et Derek Prince nous guide dans cette étude de façon précise dans la pensée biblique.
Romains 15, verset 13.
Non. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Ce soir, je vais poursuivre dans la logique de ce que j'ai commencé. Ce matin, j'ai abordé le sujet de l'immersion dans l'eau ou du baptême dans l'eau. Ce soir, je vais aborder l'immersion dans le Saint-Esprit. J'ai souligné que le mot baptisé que nous utilisons dans la Bible française n'est pas un mot français. Il s'agit d'une translittération d'un mot grec. Le sens du mot grec ne prête à aucune ambiguïté. Il signifie « immerger ». C'est pourquoi j'utilise le mot « immersion ». Ce matin, j'ai parlé de l'immersion dans l'eau. Ce soir, je parlerai de l'immersion dans le Saint-Esprit. Voyez-vous, il y a deux façons d'être immergé. Il y a la piscine, dans laquelle vous entrez dans l'eau, vous allez sous l'eau et vous ressortez de l'eau. C'est le baptême d'eau. Mais il y a aussi le baptême façon chute de Niagara. Je me souviens que quand je me tenais debout à regarder les chutes du Niagara, je me disais qu'il serait impossible de rester sous ces chutes une seconde sans être complètement trempé. Ça, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. À chaque fois qu'il est évoqué, le texte indique, d'une façon ou d'une autre, que le Saint-Esprit est venu d'en haut. Donc, nous parlons maintenant de deux types d'immersion. L'immersion dans l'eau, vous entrez dedans, vous passez sous l'eau, vous en ressortez. L'immersion dans le Saint-Esprit, vous vous mettez en dessous et il vous recouvre d'en haut. Mais dans un cas comme dans l'autre, vous êtes complètement immergé. Pas juste un peu immergé ou même aspergé, non, totalement immergé. Il est très intéressant de constater que l'introduction aux quatre évangiles mentionne spécialement que Jésus-Christ baptisera du Saint-Esprit. Je crois qu'on n'y a pas assez prêté attention. Je vais lire les passages des quatre évangiles. Matthieu, chapitre 3, verset 11. Jean le Baptiste dit, « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Puis dans Marc, chapitre 1, verset 8, nous trouvons là l'introduction. Jean le Baptiste déclare, « Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Puis dans Luc 3, verset 16, la version qui se trouve dans l'évangile de Luc, Jean le Baptiste dit, Jean leur répond cela, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Il vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. » Et enfin, dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 33, cela fait partie de l'introduction officielle de Jésus par son précurseur, Jean le Baptiste. Dans chaque introduction, dans chacun des quatre évangiles, il est spécialement mentionné que Jésus baptisera son peuple avec le Saint-Esprit. Dans l'évangile de Jean, l'introduction est un peu plus détaillée. En commençant au chapitre 1, verset 29, « Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Puis il continue en disant au verset 33, Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage, qu'il est le Fils de Dieu. Ici, Jean dit trois choses. Voici l'agneau de Dieu, voici le Fils de Dieu, et c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Nous sommes tous si merveilleusement habitués à cette déclaration que Jésus est l'agneau de Dieu, mais il n'en est fait mention que dans un seul évangile, alors que dans les quatre évangiles, il est spécifiquement déclaré que Jésus est celui qui baptise du Saint-Esprit. Autrement dit, c'est l'une des choses les plus importantes qu'il nous faut connaître à son sujet. C'est merveilleux de le connaître en tant que sauveur, de le connaître comme l'agneau de Dieu. Mais ce n'est pas fini. Il est également très, très important d'arriver à le connaître individuellement et personnellement comme celui qui baptise du Saint-Esprit. Après l'achèvement de son ministère terrestre, après sa résurrection, dans Actes chapitre 1, versets 4 et 5, dans Actes chapitre 1, versets 4 et 5, Jésus répète cette promesse. On ne saurait trop souligner à quel point cette promesse est rappelée dans les évangiles. Dans Actes chapitre 1, versets 4 et 5, il est dit de Jésus, « Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. » Ainsi, Jésus prenait soin de répéter la promesse par laquelle Jean le Baptiste l'avait introduit, à savoir qu'il serait celui qui baptiserait du Saint-Esprit. Presque tous les commentateurs de la Bible s'accordent à dire que l'accomplissement de cette promesse est réalisé dans Actes chapitre 2, versets 1 à 4, le jour de la Pentecôte. Je veux donc lire ce qui est écrit et ensuite considérer en quelques mots ce que cela impliquait. Acte 2, en commençant au verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues ou langages, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer, selon ce que l'Esprit leur donnait de parler. Il y a donc trois phases successives dans cette expérience. Tout d'abord, il s'agit d'un baptême. Le Saint-Esprit est descendu et les a immergés. Cela a rempli tout le lieu où ils se tenaient assis. Ils ont été immergés d'en haut. Deuxièmement, chacun d'eux a été individuellement rempli du Saint-Esprit. Ce n'était pas seulement une expérience collective, mais c'était une expérience dans laquelle chacun avait sa part. Et troisièmement, il y a eu inondation, un débordement surnaturel venu du trop-plein de l'intérieur. Ceci s'accorde avec ce qui est dit dans Matthieu chapitre 12, verset 34. Matthieu 12, verset 34, juste la dernière partie du verset. Jésus dit, « Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » J'illustre cela en disant que quand votre cœur est plein, il déborde de paroles de votre bouche. Il y a de nombreux passages dans le Nouveau Testament qui parlent de personnes remplies du Saint-Esprit. J'ai examiné chaque passage, et à chaque fois, ce qui se passait, c'est que la personne parlait, prophétisait, parlait en langue ou autre. C'est un principe universel. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand le cœur est rempli jusqu'à déborder, alors le débordement se produit par les lèvres, au travers des paroles. Et c'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Lorsqu'ils furent remplis, ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de parler. Il est très important de comprendre qu'il s'agit de quelque chose pour lequel Dieu et l'homme doivent coopérer. Dieu les a remplis, mais ce sont eux qui se sont mis à parler. Le Saint-Esprit n'est pas celui qui parle. Ce sont eux qui ont parlé. Le Saint-Esprit, lui, leur a donné la langue. J'ai rencontré tellement de personnes, j'ai passé de nombreuses années dans le mouvement pentecôtiste, qui venaient me dire, « Frère Prince, je veux que Dieu fasse la même chose pour moi. » J'en ai rencontré un qui m'a dit, « J'ai attendu pendant 25 ans. » Il me dit, « J'attends que Dieu fasse la même chose. » Vous pouvez attendre le reste de votre vie, car ce n'est pas biblique. Dieu fera sa part. Vous aurez à faire la vôtre. C'est vous qui parlez. Et Dieu donne la langue. Mais ce n'est pas Dieu qui parlera. Ils se sont tous mis à parler comme le Saint-Esprit leur donnait de parler. Laissez-moi vous dire qu'il est vrai qu'ils ont attendu et patienté jusqu'au jour de la Pentecôte où le Saint-Esprit est descendu. Après cela, il n'y a aucun récit comme quoi quelqu'un aurait dû attendre le Saint-Esprit. Il avait été donné, et ensuite, quand ils priaient et que les conditions étaient remplies, ils recevaient immédiatement le Saint-Esprit. Je tiens à affirmer à chacun d'entre vous ce soir que si vous remplissez les conditions, j'aborderai ce point un peu plus tard, et que vous êtes assoiffé, vous pouvez être rempli ce soir même. Si vous ne l'avez jamais reçu, cette nuit, c'est le moment. Nous y reviendrons plus tard. Je voudrais maintenant insister sur la façon dont l'apôtre Paul en parle. Dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 22, il dit, 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 22, nous allons lire le verset 21 également. C'est Dieu lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Paul dit deux choses. Le Saint-Esprit est un sceau et c'est aussi un dépôt. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 14, il utilise un langage similaire. Mais ceci vous identifie publiquement comme lui appartenant. Il appose son sceau officiel sur vous. Je ne sais si l'un d'entre vous peut se souvenir des jours où l'on envoyait des courriers en recommandé où il fallait poser un cachet de cire chaude. Vous souvenez-vous de cela? Et il fallait apposer une empreinte dessus avec de la cire chaude. C'est exactement ce que fait le Saint-Esprit. C'est un sceau, c'est de la cire chaude. Jésus pose son empreinte sur vous et il vous met à part. Et vous savez que votre courrier en recommandé bénéficie d'un traitement particulier. Après ça, on fait plus attention à lui. Quand vous avez été baptisé du Saint-Esprit, vous êtes comme un courrier en recommandé. Le bureau de poste du ciel vous prête une attention toute spéciale. Le second mot est « acompte » ou « dépôt ». Et ceci, il se trouve que je suis très intéressé par les langues, cela devient très intéressant. En hébreu, le mot est « arban ». En arabe, c'est arbon. En swahili, arabouni. En bref, le même mot se retrouve tout le temps. Je parlais l'arabe quand j'habitais Jérusalem. Il y a de cela des années, avec ma première femme, et je me souviendrai toujours d'une scène survenue en 1947. Nous venions de déménager dans une nouvelle maison à Jérusalem, et nous avions besoin d'acheter des fournitures pour les rideaux. Nous sommes donc allés dans la vieille ville, et nous avons trouvé un homme qui vendait les fournitures pour les rideaux. Nous avons trouvé ce que nous cherchions, et ces chiffres ne sont pas exacts, c'est juste pour vous donner une petite idée. Nous avions besoin de 20 yards, et le prix était, disons, 5 dollars le yard. Le prix global était de 100 dollars. Nous avons dit au vendeur, « Bon, écoutez, nous n'avons pas toute la somme sur nous, mais nous allons vous donner un cinquième de la somme, 20 dollars comme à compte. » Savez-vous comment il appelait ça en arabe? Arbon. Nous avons dit, « Quand nous vous aurons donné l'argent, il faudra bien vous souvenir de deux choses. Cela nous appartient, vous devez le mettre à part pour nous. » Vous ne pouvez pas le vendre à quelqu'un d'autre, car cela nous appartient. Deuxièmement, cet acompte est la garantie que nous allons revenir avec le reste de la somme pour prendre la marchandise. Et c'est ce qu'est le baptême dans le Saint-Esprit. Jésus a donné un acompte pour vous et vous a mis à part pour lui. Après cela, vous ne pouvez être vendu à qui que ce soit. Deuxièmement, c'est sa garantie que je reviendrai vers toi. Je voudrais dire maintenant quatre choses à ce sujet. Tout d'abord, c'était le sceau que les apôtres eux-mêmes ont reçu dans leur propre expérience. Jésus avait dit, « Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez ce que le Père a promis. » Ils ont donc attendu pendant 10 jours. Lorsque le Saint-Esprit est descendu et qu'ils se mirent à parler en langue, ils n'ont plus jamais attendu par la suite. Il s'agissait du sceau qu'ils avaient reçu dans leur propre expérience. Deuxièmement, c'était le sceau qu'ils acceptaient dans l'expérience des autres. Et nous allons considérer un cas remarquable dans un petit moment. Troisièmement, ils n'ont jamais demandé le don d'un autre sceau. Je le redis, car c'est très important. Voyez-vous, j'ai tellement rencontré de personnes toutes ces années qui venaient me dire « Frère, comment puis-je savoir si j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit ? J'ai vécu telle et telle expérience. J'ai vraiment cherché et prié Dieu. Mais comment puis-je savoir ?» Ma réponse est que vous pouvez tout à fait savoir quand vous recevez le Saint-Esprit. Quand vous commencez à parler en langue, selon ce que le Saint-Esprit vous donne de le faire, vous l'avez reçu. J'irai même plus loin en disant que vous l'avez reçu, lui. Ce n'est pas une chose. C'est une personne que vous avez reçue. Je vais donc résumer ces trois choses à nouveau. C'était le sceau que les apôtres avaient reçu. C'était le sceau qu'ils acceptaient chez les autres. Et ils n'ont jamais réclamé un autre sceau. De plus, le Nouveau Testament ne nous propose pas d'autres sceaux. Il n'y a pas d'alternative dans le Nouveau Testament. Regardons ce que Jésus dit dans Luc, chapitre 24, versets 52 à 53. Après sa résurrection, au moment où il quittait ses disciples, il dit, Luc 24, versets 52 à 53, et ils l'adoraient. Désolé, c'est un autre point que je veux mettre en lumière. Beaucoup de gens ont dit, « Oh, j'étais tellement heureux, j'étais rempli de joie, je louais le Seigneur tout le temps. Est-ce que ça n'était pas le sceau ? » Pas selon le Nouveau Testament. C'est merveilleux d'être rempli de joie, c'est merveilleux de louer Dieu, mais ça n'est pas le sceau du Nouveau Testament. Je vais vous dire comment je le sais, car après la résurrection de Jésus, il est dit, tout à la fin de l'évangile de Luc, pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Amen. Ils avaient donc une grande joie, ils louaient et bénissaient Dieu continuellement, mais ils n'avaient pas reçu le sceau. Ils ne le reçurent que le jour de la Pentecôte. Jésus avait dit « Attendez » ou « Patientez » jusqu'à… Ils n'ont pas attendu davantage. Après la venue du Saint-Esprit et le don de leur parler en langue, ce fut la fin de l'attente. Je pense qu'il y a un cas particulier dans le livre des Actes qui démontre cela d'une façon très réaliste. J'aimerais que nous le lisions. C'est dans Actes chapitre 10, tout à la fin du chapitre. Vous connaissez l'histoire ? Pierre avait été conduit de manière surnaturelle vers la famille de Corneille. Il ne voulait pas se rendre là-bas, car il ne lui semblait pas correct pour un juif d'entrer dans la maison d'un gentil, et encore moins de manger ensemble. Mais sous la pression divine, il s'y rendit et prit avec lui 6 autres croyants juifs. Il voulait avoir des témoins. Et pendant que Pierre leur parlait, les entretenant de Jésus, dans Actes 10, verset 44, il est dit, « Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. » Il est intéressant de savoir jusqu'où il en est arrivé dans son sermon. Il dit au verset précédent, « Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit en son nom le pardon des péchés. » Et ces gens simples, de la maison de Corneille, le crurent et reçurent le pardon des péchés. Une fois reçu le pardon des péchés, le Saint-Esprit était prêt à descendre sur eux. Vous comprenez? Il est dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Souvenez-vous qu'ils sont arrivés là, persuadés que l'Évangile ne pouvait être que pour les Juifs. Ils ne pensaient pas que les gentils pouvaient devenir chrétiens. Mais quand ils les ont entendus parler en langue, ils dirent, C'est donc ça, on ne peut rien contre ça. Pourquoi ont-ils cru? Il est dit, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Ils n'avaient aucune autre preuve et n'en demandèrent aucune autre. Certaines personnes de nos jours pourraient demander, ils auraient dû laisser en suspens tout cela et attendre 6 semaines pour voir s'ils portaient vraiment du fruit. Mais ils ne l'ont pas fait. Voyez-vous, on ne parle pas de fruits. On est en train de parler de dons. Ce sont deux choses différentes, chacune étant très importante. Un don est donné en une seule fois. Les fruits arrivent dans un lent processus de maturation. Certains d'entre vous viennent juste de fêter Noël. Et sans doute, certains d'entre vous ont eu un arbre de Noël. Oui? Et sur votre arbre de Noël, ou en dessous, vous avez placé vos cadeaux. Et les gens à qui vous offriez vos cadeaux se sont approchés, ont pris le cadeau et l'ont reçu. C'est tout. Un cadeau est reçu en une seule fois. À l'opposé, un fruit pousse sur un arbre fruitier, pas sur un arbre de Noël. Ça prend du temps. C'est tout un processus. Ne vous méprenez pas. Un fruit est extrêmement important. Mais ne confondez pas un fruit avec un don. Ce dont nous parlons, c'est du don du Saint-Esprit. Quelque chose que l'on peut recevoir en une seule fois. Et donc, quand Pierre répondit aux gens de la maison de Corneille, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?» Autrement dit, il n'a fait aucune différence entre ces personnes et ce qui s'était passé le jour de la Pentecôte. Plus tard, alors qu'il faisait un rapport à ses frères juifs, qui le critiquaient de s'être rendu chez un gentil et de lui avoir parlé, Pierre dit, dans Actes chapitre 11, verset 15, « Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. » Il n'est pas fait mention dans la maison de Corneille d'un vent impétueux ou de langue de feu, mais ce qui a permis d'identifier cette expérience, c'est le fait de parler dans d'autres langues. C'est pourquoi j'affirme, et je pense que cela ne peut être contredit, qu'il s'agissait du sceau que les apôtres ont reçu. C'était le sceau qu'ils reconnaissaient chez les autres. Ils ne demandèrent jamais aucun autre signe, et aucun autre signe n'est proposé dans le Nouveau Testament. Cela dit, je sais cela probablement mieux que la plupart d'entre vous, que de parler en langue est parfois considéré comme, je ne sais pas, quelque chose d'étrange, de peu orthodoxe. Certains même disent démoniaque. Je me souviens d'une époque où un cher pasteur évangélique ne voulait pas rester sur le même trottoir que moi parce qu'il avait appris que je parlais en langue. Vous voyez un peu? Je lui pardonne, mais je ne partage pas du tout ses opinions. Vous savez, Dieu fait parfois démarrer une expérience par quelque chose qui ressemble à une pierre d'achoppement. Si vous n'êtes pas désireux de cela, vous serez mis de côté. Des personnes qui parlent une langue qu'elles ne connaissent pas et qui sont peut-être très excitées sont comme une offense pour certaines personnes. Je vous dirais que selon moi, nous autres, issus de nos arrière-plans anglo-américano-européens, nous avons une idée assez faussée de ce qu'est vraiment le christianisme. D'abord, nous pensons que c'est quelque chose pétri de dignité. Quand vous entrez dans l'Église, vous ne devez pas élever la voix. Vous restez debout ou assis et chantez des hymnes. Mais vous n'êtes généralement pas excité par quoi que ce soit. C'est le tableau dans lequel j'ai été élevé. J'allais à l'église 8 fois par semaine. C'est pourquoi je parle d'expérience. Mais ça n'est pas le tableau tiré de la Bible. Voyez-vous, nous souffrons beaucoup, pour plusieurs parmi nous, car nous ne sommes pas libres d'exprimer ce que Dieu est en train de faire en nous. Lisez comment les gens se comportaient dans la Bible. Ils pleuraient, ils criaient, ils gémissaient, ils tapaient dans leurs mains, ils dansaient, ils chantaient. Ils étaient tous excités. Ils étaient enthousiasmés. Celui qui procure l'excitation, c'est le Saint-Esprit. Vous rappelez-vous ce que Ruth et moi avons cité au tout début? Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui nous remplit de joie? La puissance du Saint-Esprit. Combien d'entre vous aujourd'hui, ne répondez pas publiquement, combien d'entre vous abondent réellement en espérance? Combien d'entre vous sont passionnés à cause de Jésus? Combien d'entre vous sont comme des bulles pétillantes? Vous ne pouvez pas rester en place. C'est ainsi que nous devrions être. C'est comme ça que nous devrions être. Et toute cette rigidité, cette dignité n'a pas grand-chose à voir avec le Nouveau Testament. Je te donnerai quelques exemples dans une minute. Poursuivons. Il y a deux façons dont le baptême dans le Saint-Esprit est donné dans le Nouveau Testament. L'un vient directement du ciel. Il tombe juste sur les personnes. C'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. C'est ce qui s'est passé dans la maison de Corneille. L'autre façon, c'est par l'imposition des mains. Ceci est décrit en trois endroits. Dans Actes, chapitre 8, versets 14 à 19. Actes, chapitre 8, versets 14 à 19. Cela se passe à Samarie. Les apôtres étant à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole du Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Ces gens avaient entendu l'évangile prêché par Philippe. Ils avaient cru et avaient été baptisés. C'est clairement dit un peu plus tôt dans le chapitre. Ils étaient sauvés, mais n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Et les apôtres n'étaient pas satisfaits. Ils n'étaient pas là, tranquillement, à se réjouir de ce que ces gens avaient été merveilleusement sauvés. Ils voulaient plus. Il est dit au verset 16, « Car il, le Saint-Esprit, n'était encore descendu sur aucun d'eux. » Notez qu'il est parlé de sa descente sur eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ils leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Ainsi, dans ce cas précis, le Saint-Esprit est descendu par l'imposition des mains d'autres croyants. Et dans le chapitre suivant, vous verrez comment, alors que Saul de Tarse, qui devint Paul, se trouvait dans la cité de Damascus, un disciple appelé Ananias lui fut envoyé, posa ses mains sur lui, pria pour qu'il soit guéri et qu'il reçoive le Saint-Esprit. Ainsi donc, Paul reçut le Saint-Esprit par l'imposition des mains d'Ananias. Et dans Actes 19, un passage que nous avons déjà lu dans une autre situation du même type, Paul, qui se trouvait à Éphèse, trouva certains disciples. Lorsqu'il leur demanda s'ils avaient reçu le Saint-Esprit quand ils avaient cru, ils n'avaient jamais entendu parler du Saint-Esprit. Il sut ainsi qu'ils n'étaient pas disciples de Jésus. Il découvrit qu'ils étaient disciples de Jean-Baptiste. Il leur dit donc que c'était adapté à cette époque-là, mais que maintenant il fallait être disciple de Jésus. Ils furent donc baptisés dans l'eau, et il est dit, « Et quand Paul leur imposa les mains, le Saint-Esprit descendit sur eux, ils parlèrent en langue et prophétisèrent. »
Enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.